Vous écoutez France Culture.
Vous savez, nous traitons pendant toute la semaine avec des documentaires inédits et demain un débat, des voyages à l'étranger, des intellectuels, des artistes et des militants français dans les années 50, 60, 70 et 80. Et après avoir traité du voyage à Moscou, du voyage à Cuba et du voyage au Liban, aujourd'hui nous allons vous proposer un documentaire inédit de Catherine Guillardy réalisé par Charles Autroux autour du voyage en Iran de la gauche française quand elle soutenait la révolution iranienne en 1980. En effet, on le sait peu, les socialistes français se sont rendus en juin 1980 aux côtés de Lionel Jospin à Téhéran pour soutenir le parti démocrate iranien, le Front National, qu'ils avaient rencontré quand ces gens étaient en exil à Paris avant la révolution de 1979. Une révolution qui évidemment changea de cours pendant ces années et pendant même ces mois. C'est ce que raconte le documentaire jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire, le documentaire de Catherine Guillardy et de Charles Autroux, avec les témoignages de Lionel Jospin, d'Abolhassan Banissadr, qui était le premier président de la République islamique, d'Ahmad Salamatian, qui était l'ancien ministre des Affaires étrangères sous justement cette première république islamique, et d'Alain Chenal, qui était l'ancien conseiller au Moyen-Orient du PS, un moment justement pour le Parti Socialiste Français de changement dans sa vision de la politique internationale, un moment de tournant quand il a tourné le dos définitivement au tiers-mondisme de ses origines.
Le gouvernement iranien n'est pas d'accord avec la prise d'otage faite ce matin par des étudiants de Téhéran à l'ambassade américaine. Un détachement militaire vient d'arriver sur les lieux. Si vous n'avez pas entendu le correspondant de l'AFP en direct dans le journal de 13h, je vous rappelle les faits. Plusieurs dizaines d'étudiants qui se déclarent partisans de Khomeini ont occupé en fin de matinée les locaux de l'ambassade américaine à Téhéran. Ils ont pris en otage une trentaine de personnes, des membres du personnel de l'ambassade, dont plusieurs Américains. On ne connaît pas le nombre exact des otages. Il y a plus d'une centaine d'étudiants autour de l'ambassade. Il est possible qu'ils se soient détachés d'une manifestation qui avait réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes ce matin dans le centre de Téhéran.
C'est alors que les habitants de la capitale se rendaient à la prière du vendredi que l'incroyable nouvelle de l'opération militaire américaine a été connue à Téhéran.
Quelles que soient les raisons de l'échec du commando américain, les Iraniens y trouvent leur compte. Ce soir, Téhéran est en ébullition, une sorte d'état de siège hystérique que nous décrit Philippe Larzac.
Et pendant 2 heures, personne n'a été mis au courant. Les étudiants de l'ambassade, les officiels, tous les organes de presse, l'armée de l'unisme absolu. Et puis d'un coup, la radio a rompu le silence.
تو دلم شادی دیگه جا نداره پیشکی تنهای ما رو نداره.
La situation en Iran et dans le monde est explosive en ce printemps 1980. Depuis le 4 novembre et la prise d'otages américains à l'ambassade de Téhéran, toutes les tentatives pour les libérer ont échoué. La dernière, une opération militaire de l'US Army, a provoqué la colère des Iraniens. L'isolement de Téhéran se creuse chaque jour et le courant démocrate encore présent dans cet Iran qui se cherche est fragilisé. Mené par Abolhassan Banissadr, le premier président élu de la jeune République islamique, le camp démocrate reprend l'initiative et organise du 3 au 5 juin 1980 une conférence internationale sur les crimes américains en Iran. Des socialistes français s'y rendent. Voyage en Iran, quand la gauche française soutenait la révolution.
En Iran, le président Bani Sadr a ouvert la conférence internationale sur l'ingérence des États-Unis dans le pays. À Washington, le département d'État condamne la présence d'une dizaine de citoyens américains, dont l'ancien secrétaire à la justice, Ramsey Clark, à cette conférence qui s'achèvera demain, mercredi.
Lionel Jospin, alors secrétaire national au tiers-monde.
Elle est un peu étrange, la conférence, dans le souvenir que j'en ai gardé. Eh bien, il y a toute une série, une exposition sur des photos sur les exactions américaines, en même temps sur les tortures de la Savak. Enfin, il y a tout un côté exposé de la souffrance iranienne imposée par les États-Unis, si vous voulez. Et nous, nous ne voulons pas aller dans l'excès, je veux dire. Mais nous y participons parce que nous espérons par là même contribuer peut-être à la levée des otages. Le gouvernement est extrêmement embarrassé par cette prise d'otages. Il y a des luttes intérieures. Certains cherchent dans les secteurs les plus radicaux à affaiblir la présidence Bani Sadr. Et donc, ils espèrent, en organisant cette conférence, un peu de solidarité avec la révolution iranienne et aussi de critique des interventions, des ingérences américaines anciennes. Ils espèrent pouvoir dire, bah, vous voyez, la communauté ou une partie de la communauté internationale est avec nous, donc la prise d'otages n'est plus nécessaire, vous devez libérer les otages. Donc, en acceptant ce jeu, au bon sens du terme, nous espérons effectivement faire lever la prise d'otages et appuyer les secteurs, on va dire, les plus démocratiques et les plus raisonnables du gouvernement autour du président de la République, Bani Sadr. Donc, c'est ça le sens de cette conférence. Donc nous espérons jouer un rôle dans une révolution qui hésite sur son cours, au fond, sur son devenir.
Lionel Jospin connaît bien ces démocrates iraniens qu'il retrouve à Téhéran en juin 1980. Depuis les années 30, Paris est la destination choisie d'une élite éclairée. Des hommes qui compteront bientôt dans la révolution iranienne y font leurs études et certains participent même au combat contre l'Allemagne nazie. C'est le cas de Karim Sanjabi, leader historique du Front National, le Parti démocrate iranien. Plus jeune, Abolhassan Bani Sadr ou Ahmad Salamatian mènent dans les années 70 une lutte active contre le Shah d'Iran. Le roi des rois est au fait de sa puissance et il couronne son succès par les fêtes grandioses de Persépolis en 1971. Le gouvernement français soutiendra le Shah jusqu'à la fin. France Inter, le 5 octobre 1976.
Un premier entretien avec le Shah d'Iran, un déjeuner avec le premier ministre iranien Oveida, une réception à l'ambassade de France de Téhéran, c'est brièvement résumé la journée du président de la République. Pour plus de détails, notre envoyé spécial Bernard Benyamin.
Un entretien avec le Shah, un déjeuner avec Amir Oveida, le premier ministre iranien, une réception à l'ambassade de France, voilà très rapidement résumé la journée de Valéry Giscard d'Estaing à Téhéran. L'entretien d'abord. Eh bien, il a duré 2 heures, alors que les deux chefs d'État ne devaient se rencontrer que pendant 1 heure. Voilà qui confirme l'importance de ces discussions et qui préjuge sur les contrats qui seront signés à la fin de la visite. Ils devraient être très importants, et notamment dans le domaine de l'énergie nucléaire. La France pourrait vendre à l'Iran 2 centrales. Impression confirmée par les déclarations de Jean-Philippe Leca, le porte-parole de l'Élysée, qui nous disait cet après-midi que des relations privilégiées seraient désormais établies entre Paris et Téhéran. C'était en quelque sorte l'écho au propos que me tenait le Shah en exclusivité pour France Inter, l'empereur d'Iran parlait, lui, de projets grandioses.
La coopération que nous pouvons établir avec la France n'a ni borne ni limite, je le crois. D'ailleurs, ça s'est passé ainsi jusqu'à présent, et il y a toutes les raisons de croire que dans le futur, il en sera de même, et même davantage encore.
Ahmad Salamatian est étudiant à Paris dans les années 70. Il est un des contacts privilégiés du PS dans sa lutte contre le Shah d'Iran. Salamatian deviendra vice-ministre des Affaires étrangères après la révolution iranienne, avant de fuir à nouveau pour la France.
De même manière qu'une partie de la droite française était inconditionnelle du Shah. Sa Majesté, c'était l'exemple même de la modernité. Ici Paris, vous, Paris Match, même Figaro, ne faisait que des louanges de la modernité de Sa Majesté. De même manière, une partie de la gauche, qui était beaucoup plus sceptique, À l'origine, c'était le Parti communiste français qui était en relation directe avec les communistes iraniens qui étaient les victimes des années 50. N'oublions pas qu'au cours des années 50, le pouvoir iranien a exécuté à peu près 600 officiers de l'armée iranienne qui étaient pro-communistes dans les réseaux communistes. À cette époque-là, déjà dans les années 50, il y a un comité qui a été créé en France sous le patronage de Jean-Paul Sartre, pour la défense des exécutés et des prisonniers en Iran. Ce comité était d'une certaine manière la fief du Parti communiste français et du Parti communiste iranien. N'oubliez pas, 1965-1977, il y a eu à peu près 27 missions d'observation des droits de l'homme qui est partie de la France vers l'Iran, avec Fédération internationale des droits de l'homme, Ligue française des droits de l'homme, Association internationale de justice démocrate, que tout ça était basé à Paris. Alors, ces missions qui partaient, qui venaient, qui donnaient, ça a eu tellement d'effet et de l'importance que même avant la gauche, président Pompidou a annulé son voyage pour les festivités de Persepolis. C'était sous la pression d'une partie de l'opinion publique française. Dans les années 60-70, il y a une évolution qui est passée dans la gauche française. Cette évolution, c'est que d'abord le monopole du Parti communiste sur les courants des pays qu'on a appelés dans le temps et après le tiers-monde, s'est cassé. Les nouveaux partis, les nouveaux groupes ont commencé à avoir un regard vers ailleurs. La nouvelle gauche, que ce soit la gauche critique du Parti communiste, qui critiquait même le Parti communiste et sa politique sur ce plan-là, a commencé à s'intéresser à des pays de l'Iran. Les socialistes français, c'était les dernières. L'international socialiste, c'était les dernières à vouloir comprendre même ce phénomène. Mais par la suite, au congrès d'Épinay, quand il y a eu la nouvelle réorganisation du Parti socialiste français, pour la première fois au sein du Parti socialiste français, on a assisté à la création d'un secrétariat qui s'appelait le secrétariat du tiers-monde. Le parti de Guy Mollet, le parti de continuation de la colonisation de l'Algérie, tout ça, faisait d'une certaine manière son autocritique et il faisait une ouverture. La création même d'un secrétariat de tiers-monde, c'était déjà le signe d'ouverture. Nous, moi j'étais étudiant à cette époque-là à Paris, qui était en contact beaucoup plus avec les organisations de défense des droits de l'homme, comité de Sartre, pour la première fois, on a été reçus dans le nouveau Parti socialiste et secrétariat de tiers-monde.
Lionel Jospin.
Donc moi je deviens secrétaire au tiers-monde du Parti socialiste en 1975. En Iran règne la dictature du Shah. J'ai envie que le PS marque son opposition à cette dictature alors que les gouvernements français sont au contraire complaisants et proches du Shah. Et le hasard fait bien les choses puisque je suis amené à recevoir une délégation d'étudiants iraniens en exil s'exprimant contre le Shah et qu'accompagne un jeune homme qui s'appelle Alain Chenal, qui n'est pas membre du PS, mais qui va ensuite travailler avec moi pendant des années, devenir socialiste et travailler avec moi sur tous les problèmes du Proche-Orient et notamment sur les questions iraniennes. Et c'est avec lui que je rencontrerai un certain nombre d'opposants iraniens. Nous dénonçons la violence de la dictature du Shah et les crimes de la SAVAK, la police politique. Nous ne croyons pas à la dimension modernisatrice qu'un certain nombre de commentateurs en Occident prêtent au régime du Shah. Nous considérons au contraire que cette soi-disant modernisation, au-delà de la terreur, est souvent destructrice. Et puis, nous sommes aussi des opposants à un gouvernement français qui, lui, est favorable au Shah, notamment sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing à partir de 1974. Les premiers contacts que nous allons nouer, en tout cas que moi je vais nouer, sont avec des opposants de, je dirais, la gauche réformiste iranienne et qui sont des héritiers du vieux parti, non pas Toudé, le parti communiste, mais Front National, tout autre sens qu'en France, qui sont un peu les héritiers de la révolution de 1953 de Mossadegh en Iran, déjà d'ailleurs écrasés par une intervention des forces occidentales liées au pétrole, puisqu'ils voulaient nationaliser le pétrole. Nous nouons des relations avec un certain nombre de ces personnalités, avec des gens comme Sanjabi, avec des gens comme Rodzadeh, avec des gens comme Ahmad Salamatian. Et donc, nous suivons avec attention la montée qui va se faire du mouvement populaire contre la dictature du Shah.
C'est Alain Chenal, jeune militant des droits de l'homme, qui présente Ahmad Salamatian et Abolassad Banissadr au cadre du PS. Son ami, Alain Grèche, a choisi, lui, le PCF, qui soutient les communistes du Toudé. Avec la rupture du programme commun de la gauche en 1977, le PS tourne définitivement la page du tiers-mondisme et préfère ses contacts avec les héritiers de Mossadegh.
On avait dans nos contacts toute une série d'amis politiques. On a beaucoup mentionné les amis du Front National. Il y avait aussi une dimension importante pour nous, qui était la dimension kurde, hein, qu'il ne faut pas oublier. Et donc, on avait une vision assez plurielle, disons, de la société iranienne à l'époque impériale. On avait quand même l'expérience, on se méfiait du Toudé, non pas qu'il n'y ait pas eu des gens très, très courageux, mais parce que le Toudé était, dans toute l'histoire de l'Iran, un parti qui avait finalement davantage défendu l'Union soviétique que défendu son propre peuple. La volonté pour nous de nous inscrire dans une autre mouvance, c'était à la fois, effectivement, parce qu'on ne voulait pas être prisonnier du Toudé, mais aussi parce que je crois qu'on avait vraiment tiré les leçons du tiers-mondisme. Pour nous, le tiers-mondisme, ça avait été peut-être pendant trop longtemps l'idée de faire confiance à des dictateurs éclairés pour moderniser des pays, etc. Et on était arrivé, c'est en cela, je pense que notre position était quand même moderne, on était vraiment arrivé à l'idée que rien ne justifie, aucun progrès, aucune modernisation autoritaire ne justifie qu'on mette entre parenthèses un fonctionnement démocratique et des droits de l'homme. Et donc, notre soutien à ce mouvement en Iran était une participation qui dépassait tout à fait le tiers-mondisme de l'époque. Et sans doute, dans d'autres cas, dans d'autres pays, où on avait encore un peu sauvegardé cette position un peu tiers-mondiste, on a réagi peut-être un peu trop tard. Je pense qu'un exemple comme celui de l'Algérie, par exemple, aurait pu nous faire réfléchir plus tôt. Mais l'Algérie, c'est une autre histoire très compliquée.
Alors qu'une opposition démocrate et intellectuelle se structure hors d'Iran, en 1978, des manifestations éclatent dans tout le pays. Bientôt, des millions d'Iraniens sont dans la rue, porté par les paroles d'un autre opposant de l'extérieur, l'ayatollah Khomeini. Banni par le Shah, réfugié en Irak, Khomeini diffuse des prêches violents contre le régime. Il est chassé d'Irak par Saddam Hussein en octobre 1978 et atterrit en France, pays pour lequel il n'a pas besoin de visa. L'opposition iranienne l'installe à Naufle-le-Château, près de Paris. L'Occident découvre le visage de la révolution iranienne, partagé entre fascination et trouble face aux vieux leaders chiites.
Il y a des journalistes de tous les pays, des Américains, des Japonais, des Allemands, des Espagnols et bien sûr des Français. D'ailleurs, en ce moment même, le journal de TF1 est diffusé en direct d'ici, mais il ne faut pas croire que cela change vraiment quelque chose au rythme immuable des journées de l'ayatollah. 13h, c'est l'heure de la prière de la mi-journée. Il y a quelques minutes, donc, le patriarche est sorti. Il a traversé la route accompagné par son petit-fils, un petit garçon de 7-8 ans, qu'il semble entouré d'une affection toute particulière. Les gardes mobiles ont fait, comme d'habitude, une haie pour interrompre la circulation. Et je vous assure qu'il y a vraiment quelque chose de surréaliste à voir ce vieillard enturbanné, en gandoura noire et brune, voûté au point d'en paraître fragile, traverser une route enneigée d'Île-de-France sous la protection de gendarmes armés jusqu'aux dents. Dans le jardin, on a tendu un chapiteau qui sert de mosquée, et c'est là que l'ayatollah dirige en ce moment la prière. Il est le premier d'entre les fidèles, c'est lui qui indique les positions, debout, à genoux, complètement inclinés, face contre terre, en direction de la Mecque. Mais aujourd'hui, c'est le petit-fils, le petit favori, qui entonne les versets du Coran. Dans l'assistance, il y a bien sûr les fidèles, une trentaine de personnes qui sont là depuis le début, depuis donc 3 mois. Il y a aussi tous ceux qui sont arrivés depuis quelques jours, tous ceux que l'on pourrait appeler les solliciteurs, les opportunistes. Ils pensent peut-être que qu'une pieuse attitude leur ouvrira les portes de l'ayatollah. Cela dit, il ne faudrait pas croire que l'ayatollah passe son temps entre les prières et les audiences. C'est bien ici à Naufle-le-Château, en compagnie de 5 ou 6 proches amis, pas plus, qu'il définit la stratégie de sa révolution islamique. Il n'y a dans ce pavillon qu'un seul téléphone, mais on peut aisément penser qu'il est très fréquemment occupé avec Téhéran. D'ailleurs, on n'arrive jamais à le joindre. Il y a également un appareil très imposant pour recopier les cassettes en grand nombre, une 30aine à chaque fois. Ce sont ces cassettes qui véhiculent les mots d'ordre de l'ayatollah. Des mots d'ordre, on le voit encore aujourd'hui, qui sont exécutés spectaculairement à quelques 6000 kilomètres d'ici.
Khomeini arrive en 78 effectivement à Paris, un peu par accident. Il est chassé par Saddam Hussein, le régime irakien, qui craint ses prêches. Moi, je ne le rencontre pas. Et au fond, je ne souhaite pas véritablement le rencontrer, parce qu'il y a une dimension un peu ambivalente du personnage. Mais Alain Chenal s'y rendra, lui. Et il a parmi ses proches, d'ailleurs, des gens comme Bani Sadre, comme Rozadeh, qui sont proches du Front National, c'est-à-dire d'une mouvance historique plutôt laïque, si vous voulez, même si certains d'entre eux bougeront. Donc des contacts existent. Mais nous, ce qui nous préoccupe, c'est moins la personnalité de Khomeini, qui est apparue tout récemment, d'ailleurs, hein, à nos yeux, dans le paysage, on va dire, politique, et pas seulement religieux, que la solidarité avec les mouvements de masse, les mouvements de foule qui s'organisent contre la dictature du Shah, autour du thème « le Shah doit partir ». Et donc, c'est ce mouvement de foule, certes en partie animé autour de mots d'ordre religieux, mais qui recouvre aussi des aspirations démocratiques, c'est ça qui nous paraît important et c'est avec ça que nous sommes solidaires.
Comment est-ce que vous gérez, vous socialistes, cette dimension religieuse de ce personnage politique ?
Ben nous, il y a un débat qui existe au sein du Parti socialiste, il y a un débat qui existe dans la gauche aussi. Et c'est pourquoi nous organisons au début de l'année 1979 une grande réunion publique d'information et de soutien à la révolution iranienne, mais d'information sur sa complexité et dans lequel le débat a lieu et où nous indiquons que nous sommes aux côtés de l'aspiration au renversement de la dictature du Shah, l'aspiration à l'introduction d'une démocratie en Iran. Nous comprenons que c'est la puissance de la conviction religieuse et de la foi religieuse qui entraîne ces foules qui serviront de bélier contre le régime du Shah et qui l'effondreront finalement. Mais nous en voyons bien aussi les rythmes, si vous voulez. Nous ne pensions pas que la révolution était un bloc. Nous pensions au contraire qu'elle était extrêmement complexe dans ses composantes. Simplement, au début de la révolution iranienne, tout nous paraît ouvert.
Communiste du Toudeh, Mojahidine du peuple, islamiste, démocrate, tous les courants de la révolution iranienne se rangent derrière Khomeini. Ils connaissent pourtant déjà sa théorie sur la prééminence du religieux sur le politique. On l'appelle le Velayat-e Fari. Mais à Paris, Khomeini change de discours et s'adapte à ses nouveaux interlocuteurs. Alain Chenal.
Il se trouve que ses opposants nous avaient parlé, entre autres, de ce monsieur Khomeini qui n'était pas une des figures majeures à l'époque du clergé, mais qui était le plus radical et qui fabriquait une espèce de thèse très différente, qui était la thèse de qu'on appelle Velayat Fari, dire la gouvernance par les plus éclairés qui s'impose au pouvoir politique. Donc, lorsqu'il arrive à Paris, la presse se précipite. Et donc, tous les jours, il y avait quelques visiteurs de la presse et quelques politiques qui s'y rendaient. Au fond, ce qui m'a frappé à l'époque, à la fois, bon, c'était un extraordinaire talent de la mise en scène, une force, on peut dire un charisme du personnage. En même temps, c'était l'art de rester dans le flou, d'avoir un discours qui est tantôt très politique, mais dès qu'on lui pose une question politique précise, il se réfugie dans le religieux, donc qui joue en permanence sur les deux tableaux, et puis qui laisse entendre, il faut bien le dire, aux journalistes et aux ceux qui posent des questions, un peu ce qu'ils ont envie d'entendre. Disons que je pense qu'ils pratiquaient, et c'est dans le schisme, mais c'était aussi dans la tradition chrétienne, une certaine forme de restriction mentale. Tout est bien pourvu que je puisse accomplir le but que je me suis fixé. Et donc, je l'ai entendu dire très clairement, par exemple, sur la situation des femmes, qui était une des premières questions qu'on posait, des choses qui étaient tout à fait contraires à ce qui se passera ensuite. Et il l'a affirmé, et tous les journalistes l'écrivaient. Donc, ce phénomène de l'exaltation de Khomeini dans les médias était beaucoup lié à sa capacité de séduire des journalistes. On l'était un peu moins que les autres parce qu'on avait entendu parler de lui et de son mouvement plus que les autres. C'est-à-dire, ceux qui le découvraient à ce moment-là étaient fascinés. Nous qui avions déjà un peu entendu parler de lui, connaissions un peu ses réseaux, on regardait ça avec une certaine distance.
Le démocrate Abolhassan Banisadr est un des plus proches collaborateurs de Khomeini quand il s'installe à Neuf-le-Château. Avec une équipe, il assiste l'ayatollah lorsqu'il reçoit les journalistes occidentaux.
Pour organiser ces interviews, le Khomeini, il a constitué un comité. Moi, j'étais le journaliste donné avant les questions qu'il voulait poser à M. Khomeini. On préparait les réponses, on donnait les réponses à M. Khomeini et une fois mis en mémoire, il recevait le journaliste. Et le journaliste posait ses questions, lui donnait ses réponses. Et la réponse était traduite par un de ses membres. J'ai jamais...
Par l'un d'entre vous? Non.
Non, j'ai jamais fait ça. Mais il y avait d'autres qui le faisaient. Une fois, c'était M. Fontaine qui est venu, rédacteur en chef du Monde.
André Fontaine, rédacteur en chef du Monde.
Fontaine posait la question. Khomeini regardait par exemple moi. Et cela veut dire qu'est-ce qu'il faut y répondre. Alors, en personne, j'ai expliqué pour lui, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire comme réponse. Bon, il commençait à parler, et un autre le traduisait, et pour M. Fontaine.
Donc, Khomeini vous a demandé ce qu'il devait répondre aux journalistes français.
Voilà. Alors, de retour au journal, Fontaine avait dit que Khomeini l'a qualifié, il n'a rien. Sauf ceux qui l'entourent, seul, il ne sait rien, c'est un grand ignorant. Bon, il voulait faire un article, comment il a trouvé Khomeini. Bon, il paraît que quelqu'un de journal avait téléphoné à M. Rozadeh, voilà, Fontaine va faire un éditorial, comment il a trouvé Khomeini. Bon, Rozadeh qui s'est dépêché au journal pour persuader Fontaine de ne pas écrire.
Pourquoi?
Ah, parce que s'il écrivait, c'est un grand ignorant. Pour celui qui présentait la révolution iranienne, à l'époque, on imaginait que c'était une grande catastrophe.
C'était une grande catastrophe parce qu'il fallait la réussir, cette révolution, et que Khomeini représentait pour vous la chance de réussir cette révolution iranienne, Abou Hassan Banisadr. Mais vous défendiez Khomeini à l'époque. Enfin, ce que vous me dites, c'est que M. Khobzadeh, qui, comme vous, était donc en France pendant les années du Shah, et qui après sera, comme vous, rentrera en Iran aux côtés de Khomeini, avant de se faire exécuter après votre départ, je crois, et votre exil à vous-même. Donc ce que vous me dites, Abou Hassan Banisadr, c'est qu'en fait, vous vouliez défendre ce personnage qui était Khomeini auprès des Occidentaux, parce que vous vouliez réussir cette révolution contre le Shah.
On voulait à tout prix réussir. On détestait tellement le régime du Shah qu'on fermait les yeux sur les défauts de M. Khomeini, ça c'est vrai. D'ailleurs, j'ai fait cette autocritique.
Vous avez fait cette autocritique?
Oui, c'est assez vrai. On voulait à tout prix réussir.
On
a présenté un discours de liberté ici en français de telle manière que même le Nouvel Observateur, il a fait une grande photo de lui, qualifiant lui Ayatollah libertaire. Donc, on avait... Le discours, c'était clair, c'était le discours de liberté. Mais ce qu'on ne savait pas, est-ce qu'il respecterait ce discours ou pas?
Mais vous disiez à vos amis
certainement,
français,
oui.
Il respectera.
Oui, certainement, oui. On imaginait qu'on a D'abord, il est un chef religieux, il respecterait ce qui est engagé devant le monde tout entier. Quelle révolution avait trouvé une telle chance devant le monde tous les jours? Il répond aux questions concernant ce qui va passer après le départ du Shah, la liberté, l'indépendance, l'explication, l'islam, la démocratie et tout. Qui imaginait qu'il ne respecterait pas?
Sadegh Khorzadeh, un autre opposant iranien proche du Parti socialiste, vante les mérites de Khomeini, c'est en 78.
Un personnage assez étonnant sur le plan intelligence, extrêmement intelligent. Un homme avec détermination, conviction, les fois extraordinaires, qui amène une vie extrêmement austère, qu'il dise lui-même, tant qu'il y a des prisonnières en Iran dans la prison, tant qu'il y a des pauvres en Iran, le leader doit vivre exactement comme les plus pauvres et plus déshérités.
L'exil parisien de Khomeini offre une tribune inespérée à l'opposition iranienne. La révolution s'accélère et le Shah quitte l'Iran le 16 janvier 1979. 15 jours plus tard, Khomeini est à Téhéran, accueilli en héros.
Quand le Shah n'est plus là, les Iraniens dansent. C'est une victoire contre la dictature, déclare l'ayatollah Khomeini. Le départ du souverain provoque d'extraordinaires scènes d'allégresse dans les rues de Téhéran.
Toute la ville est descendue dans la rue, des centaines de milliers de personnes. On a klaxonné pendant 4 heures dans toutes les rues de la ville. Des statues ont été déboulonnées par la foule en folie. Il y avait de véritables grappes humaines sur les camions militaires. Tout le monde s'embrassait, on jetait en l'air des brassées de bonbons, des gâteaux, des milliers de fleurs. Des millions de portraits de Khomeini sont brusquement sortis de je ne sais où pour être affichés immédiatement sur les camions, sur les voitures, sur tous les murs de la ville.
Mesdames et messieurs, nous commençons notre descente vers Téhéran. Nous vous prions de ne plus fumer, d'attacher vos ceintures et de redresser le dossier de votre siège. Après 5h30 de vol sans histoire, le Boeing 747 d'Air France, baptisé l'avion du retour au pays, s'est posé sur le sol iranien. Après 14 ans d'exil, l'ayatollah Khomeini a retrouvé sa patrie. Ensuite un accueil franchement délirant. Le gouvernement iranien n'est pas d'accord avec la prise d'otage faite ce matin par des étudiants qui se déclarent partisans de Khomeini. Ils ont pris en otage une trentaine de personnes, des membres du personnel de l'ambassade, dont plusieurs Américains. On ne connaît pas le nombre exact des otages.
Un an après avoir fait tomber un dictateur soutenu par les plus grandes puissances occidentales, l'Iran révolutionnaire ne fascine plus. Il est frais. La prise d'otage du 4 novembre 1979 isole le pays du reste du monde et fragilise les démocrates iraniens au profit des radicaux. Abolhassan Bani Sadr, élu président de la République islamique, tente de reprendre la main. En pleine crise des otages, il organise une conférence internationale pour dénoncer les ingérences américaines en Iran. Nous sommes en juin 1980.
Mais quel était le but de cette conférence, Abdelhassan?
Alors, d'abord, c'était obtenir un soutien pour la tendance démocratique en Iran qui s'opposait aux prises d'otages. C'était une situation de guerre entre une tendance qui voulait la démocratie, qui était majoritaire au sein du peuple, et une minorité de mollahs qui voulaient s'emparer du pouvoir à tout prix. Et dans cette conférence, c'était extraordinaire comme le fait. c'est que M. Ahmad Khomeini, le fils de Khomeini, devait prendre parole dans cette conférence et dire que M. Khomeini a donné son accord à ce que les otages soient mis à la disposition du président. C'est-à-dire moi, pour après je puisse régler le problème avec les États-Unis. Bon, au lieu de le faire, il a avalé le papier. Oui, il a avalé le papier.
Il l'a mangé.
Oui, oui. Il a avalé le papier. Cela veut dire que, bon, quelque chose est passé. Au lieu de que les otages soient mis à la disposition du président, non, ils ont resté dans les mains de preneurs d'otages. Un autre cas, quand M. Jospin et Alain Chonal sont venus, les gens de l'aéroport l'ont gardé pendant plusieurs heures pour montrer qui a le pouvoir en Iran. Simplement, c'était pour ça. Après, on s'est informé, on est intervenu pour que qu'il puisse entrer, si vous voulez.
Lionel Jospin.
Mais je m'y rends parce que finalement, l'initiative vient justement du gouvernement Bani Sadr et d'un certain nombre de nos amis au sein de ce gouvernement. La prise d'otage a eu lieu après l'occupation de l'ambassade américaine. La tentative d'intervention américaine a eu lieu aussi et elle a abouti à un échec pour libérer les otages. François Mitterrand dira d'ailleurs à ce moment-là, un petit peu à l'inverse de la sensibilité spontanée des socialistes, qu'il comprend qu'un chef d'État, Carter, essaye de sauver ses compatriotes. Donc c'est une position assez claire de François Mitterrand. Et le gouvernement est extrêmement embarrassé par cette prise d'otage. Comme vous l'avez dit, il y a des luttes intérieures. Certains cherchent dans les secteurs les plus radicaux à affaiblir le régime de la présidence Bani Sadr. Et donc, ils espèrent, en organisant cette conférence, un peu de solidarité avec la révolution iranienne et aussi de critique des interventions, des ingérences américaines anciennes, ils espèrent pouvoir dire bah, « Vous voyez, la communauté ou une partie de la communauté internationale est avec nous, donc la prise d'otages n'est plus nécessaire, vous devez libérer les otages ». Donc, nous espérons effectivement faire lever la prise d'otages et appuyer les secteurs, on va dire, les plus démocratiques et les plus raisonnables du gouvernement autour de Bani Sadr. Donc c'est ça le sens de cette conférence.
Alain Chenal.
Bon, on arrive un matin de juin dans un hôtel qui est l'hôtel Hilton, qu'on va rebaptiser Esteghlal, l'indépendance, un peu pour marquer le coup. C'est à la fois relativement désorganisé sur le plan, enfin pas très organisé, mais enfin pas si mal que ça. Et c'est très structuré sur le plan intellectuel. La conférence a quand même, et c'est ça que bon, j'ai un souvenir assez fort, c'est que dans toute une série de secteurs, la défense, la diplomatie, la justice, des conseillers ou des membres de la direction de la présidence de la République vont nous faire des rapports de très grande qualité. Donc il y a à la fois une véritable réflexion, je me souviens encore de certains intervenants, des grands diplomates, des cadres de qualité. On a sur chacun des chapitres qui s'ouvrent, si vous voulez, il y a des rapports introductifs de grande qualité. Ensuite, la conférence, est un peu, il y a 200 organisations, depuis les grands partis de la gauche occidentale jusqu'aux Cubains, aux Vietnamiens, tous les mouvements tiers-mondistes, donc c'est un peu en désordre. Mais il y a un comité de résolution qui travaille très, très relativement sérieusement, qui est pas, c'est pas fermé d'avance. Et le Français qui participe à ce comité, qui est une figure qu'on aime beaucoup et qu'on respecte beaucoup, Louis Joinet, va peser tout son poids dans ce comité de rédaction du communiqué final. Il est aidé en cela par le fait qu'effectivement, et Ropzadeh, et Bani Sadr, et Salam Atian, les principaux animateurs, sont francophones et connaissent la France. Donc on a le sentiment qu'au moins au niveau des textes, il en sort des choses importantes.
Justement, donc cette conférence va déboucher sur une déclaration. Notamment, on demande que le Shah soit jugé à la fin de cette conférence à l'international.
L'idée était très claire, c'est qu'au fond, on sentait nos amis pris dans un piège, qui était la prise d'otages. On savait qu'ils n'obtiendraient pas des Américains la livraison du Shah ou la restitution de ses biens, qui étaient, ou de l'argent confisqué. Et donc, on voulait faire comme si. On voulait, et ça c'était vraiment le but, c'était pouvoir dire au peuple iranien, maintenant, des tas de gens qui comptent dans le monde ont soutenu massivement votre demande, considérer qu'elle est accomplie et donc libérer les otages. Ça, c'était vraiment l'obsession qu'on avait parce qu'on voyait bien que la prise d'otages était la machine qui allait tuer nos amis et tuer ce qu'on espérait de la polyvalence de cette révolution.
Et ça n'a pas marché.
Et ça n'a pas marché. Sans doute était-ce déjà un peu trop tard. On l'a senti à ce moment-là. La conférence était bien organisée, maîtrisée. Le message de Khomeini était chaleureux. Tout pouvait laisser croire qu'en apparence, ils étaient encore en bonne intelligence. Mais on sentait bien que ça n'était déjà plus le cas. Au fond, c'était le moment où les démocrates se retrouver à gérer ce qui restait de l'appareil d'État et où les religieux les plus durs, les plus ambitieux, essaient de structurer un pouvoir religieux.
Ce qui me paraît important, c'est nos discussions avec Amal Salamatian, nos discussions un soir aussi avec Bani Sadr lui-même, avec le président de la République, son équipe qui l'entourait, et on sentait à quel point la révolution s'assombrissait, on sentait à quel point le risque de sa subversion interne par à la fois des forces religieuses et radicales était pesant, et on sentait la menace sur nos propres amis. Moi, je me souviens d'avoir dit à Alain Chenal, en revenant de cette soirée, que je sentais cette menace, et j'ai dit je sens le risque que la révolution, comme ailleurs, dévore ses enfants. Hein. Et donc, oui, on le sentait très nettement. Quand on a été reçu avec l'ensemble des délégués par Khomeini dans l'endroit où il était retiré, un peu dans la montagne, là, sur une hauteur, aussi tout il s'est exprimé à nous, on l'a attendu, puis il est apparu en haut sur une espèce de petit péristyle, balcon plutôt, traduit par Rozadeh. Rozadeh qui sera d'ailleurs assassiné ensuite, alors qu'il était proche du guide. Hein. Ce côté, ce magistère religieux, cette dévotion aussi qui s'exprimait à son égard, tout ça, pour des consciences comme les nôtres, était étrange, si vous voulez.
Ahmad Salamatian.
Khomeini, comme moi je l'appelle, il était un stratège avant que ce soit un homme de religion. Les gens ne voient pas Khomeini stratège. Moi je dis Khomeini est pour la révolution iranienne ce qui était Lénine pour la révolution bolchevique. Ce n'est pas sans raison que la prise d'otage de l'ambassade américaine, Khomeini l'a appelée la deuxième révolution. C'est exactement la terminologie bolchevique. Et il attendait leur octobre. L'octobre de chacun, c'était à qui ferait le plus de surenchères qui gagnerait. L'affaire des otages et son aspect spectaculaire a permis à des courants les plus extrémistes de la société iranienne de prendre le pouvoir. Et quand on dit le courant le plus extrémiste, attention, dans les sociétés musulmanes, le plus extrémiste, ce n'est pas les anarcho-communistes. Ce n'est pas les bolcheviks les plus durs. Les plus extrémistes, ce sont ceux qui transforment la religion en idéologie. Si c'était à refaire, j'aurais dit qu'à ce moment-là, il ne faut pas céder à l'accélération de l'histoire. Je ne dis pas qu'on aurait le moyen de le faire. Mais le problème, c'était de ralentir un mouvement de réforme. Même s'il est pris dans un vertige révolutionnaire, il faut qu'il choisisse pour ne pas tomber dans la tentation de l'accélération de l'histoire. J'insiste et je dis encore, la révolution iranienne, c'est une révolution. Ce n'est pas une conspiration, ce n'est pas blanquiste, ce n'est pas un complot, ce n'est pas une machination d'un... C'est une vraie révolution, c'est-à-dire il y a des centaines de milliers de facteurs et des forces énorme qui se libère, et dans ces moments telluriques de l'histoire, on ne sait pas quelle forme ça prendra.
Mais l'Iran révolutionnaire mangera ses enfants. Ahmad Salamatian devra fuir l'Iran après la destitution d'Abol Hassan Bani Sadr en juin 1981. La guerre Iran-Irak est passée par là. Déclenchée en septembre 1980, elle achève d'isoler le courant démocratique de l'Iran post-révolutionnaire.
À l'étranger, en Iran, l'ayatollah Khomeini, qui a destitué le président Banisadr, se montre conciliant. Le chef religieux affirme qu'il a pris cette décision avec regret, en soulignant la sympathie que lui inspire le président déchu. En tout cas, M. Banisadr est toujours introuvable. Selon certaines rumeurs, il se serait réfugié en Égypte.
Lionel Jospin, vous avez eu l'impression d'avoir été naïf avec vos amis iraniens, c'est-à-dire que même ont cru à cette révolution, elle a eu lieu, mais il y a un vrai changement en Iran. Mais est-ce que le mot naïveté peut être évoqué là ou pas ?
Il peut être évoqué pour le récuser. Nous avons été constamment conscients de l'ambivalence de cette révolution. Nous n'en avons jamais accepté ou approuvé les traits négatifs, non seulement les risques pour les libertés, mais même la mise en cause des droits des femmes, par exemple, même si les femmes vont acquérir aussi d'autres droits, y compris encore aujourd'hui en Iran. Par exemple, le droit d'étudier, de ce point de vue-là, on ne peut pas comparer à l'Afghanistan, du moins à l'Afghanistan, tel que les talibans le rêvent. Non, nous n'avons pas été, enfin, pour ce qui nous concerne, nous n'avons pas été naïfs. Nos amis l'ont-ils été ? On ne peut dire ça que si le choix pour eux était de ne pas être présents dans cette lutte. Or, ils avaient été des opposants au Shah. Le Shah tombe, ils y ont contribué, ils accompagnent un mouvement, ils veulent l'orienter dans un certain sens. Donc, où ils restent spectateurs confortablement installés en France, enfin, confortablement, pas tellement d'ailleurs, parce que ce n'était pas des grandes fortunes, mais où ils restent en France et ne bougent pas, où ils rentrent dans leur pays, ils se battent sur les idées qui sont les leurs, dans un mouvement qui est un mouvement qui a eu, dès le départ, d'où sa force d'ébranlement contre le Shah, une dimension religieuse. Ce n'était pas des manifestations classiques. Ce n'était pas des manifestations de partis politiques ou de syndicats qui se sont déroulées. Non, il n'y a pas. C'est comme si vous me disiez qu'un certain nombre d'acteurs de la Révolution française ont été naïfs sous prétexte que la dictature, la terreur a eu lieu, la restauration thermidorienne s'est opérée, et qu'en plus un général Bonaparte est venu nier la Révolution en instaurant l'Empire.
Oui, enfin, il n'y avait pas trop.
C'est pas ça. La vie, l'histoire, et pour les combattants, c'est jamais ça. Elle n'est jamais, en tout cas, écrite à l'avance.
Cela ne veut pas dire que la révolution était un échec.
Abol Hassan Banisadr.
Ou est un échec, non ? Donc, je dis que maintenant, on est assuré que le changement est en train de se faire. Il y a aussi un peuple, le peuple iranien, qui s'est changé. C'est pas le même qui était avant. La mentalité passive a été remplacée par une mentalité active. Regardez le monde musulman. Le discours de la liberté, c'est en Iran. Au nom de l'islam, c'est en Iran qui s'est développé. Le mouvement qui continue toujours en Iran, c'est en Iran. C'est pas dans d'autres pays. De ce côté, si on regarde la révolution, on voit que non, il n'y a pas la place pour une déception.
Ahmad Salomatian.
Comme quelqu'un qui a passé la plus grande partie de sa vie dans les prisons du Shah, en exil, sous Khomeini, sous le Shah, tout ça, je vais vous dire une chose. L'histoire des mouvements démocratiques des pays musulmans, beaucoup plus que ce soit l'histoire de rencontres et de soutien et de coopération avec les partis de gauche européennes, c'est une histoire de rendez-vous manqué. Si la gauche européenne, travailliste anglaise, socialiste français, avait compris dans les années 1950 ce qui était l'importance de Mossadegh en Iran, de Farhat Abbas en Algérie, de Chokri Rouatli en Syrie, de Saad Zahloul Pacha en Égypte. Je peux vous en donner, c'est-à-dire les gens qui avaient été éduqués à la fois dans leur tradition, ayant prise dans leur société, et avaient été éduqués dans les écoles de la démocratie. Le visage du monde musulman aujourd'hui aurait été complètement changé.
chaud à l'abri des assauts pendant que tout un peuple criait « Démission est tombée sous les balles !» Le retour tant attendu est arrivé, monsieur Cometti. L'avion, il a repris dans un bain de foule. Il est rentré au pays, ça sent l'épuration. Sous sa bombe flasque, blindé comme un tank, il vivait sous une bombe, protégé comme une banque. Durant tout son exil, il n'a fait que prière. Derrière le vieux croyant, se tairait le tortionnaire. De quoi est fait demain, on l'a su assez tôt. Le soleil ne brille plus, à neuf le château. Important, le vieillard a relancé la bagarre et rempli les prisons. Nouvelle dictature, exécution sans merde. Les femmes doivent se voiler, la musique prohibée. Ils massacrent leurs frères, tout devient absurde. Sous sa peau flasque, blindé comme un tank, il vivait sous une tente, protégé comme une banque. Durant tout son exil, il n'a fait que prière. Derrière le vieux croyant, se tairait le tortionnaire.
Voyage en Iran, quand la gauche française soutenait la révolution. Avec Lionel Jospin, Abolhassan Banisadr, Ahmad Salamatian et Alain Chenal. Archivina, Amélie Briand-Lejeune. Prise de son, Olivier Leroux et Jean-Sébastien Rago. Mixage, Pierre Mine. Un documentaire de Catherine Gilliardi et Charlotte Roux.
Il a sa place à l'hospice et non dans la police. L'être humain est revenu, il est rassasié dans cette atrocité. C'est un peu facile de dicter des messages quand on est au chaud, à l'abri des assauts, pendant que tout un peuple criait démission. Sous un beau flasque, blindé comme un tank, il vivait sous une tente, protégé comme une banque. Durant tout son exil, il n'a fait que prière. Derrière l'ayatollah, se tairait le tortionnaire. Derrière l'ayatollah, se tairait le tortionnaire. Derrière l'ayatollah, se tairait le tortionnaire. Derrière l'ayatollah, se tairait le tortionnaire.
Dernier temps demain de notre semaine spéciale consacrée justement au voyage à l'étranger des intellectuels, des artistes et des militants français. Après 4 documentaires, nous vous proposons demain un débat pour conclure, donc un débat historiographique autour de ce thème des voyages intellectuels de militants et d'artistes depuis le 19e siècle avec les historiens et historiennes Sylvain Venère, Marianne Matar-Bonucci et Sophie Queret. Si vous voulez réagir à cette émission ou à toutes les autres, www.franceculture.com, rubrique les émissions La Fabrique de l'Histoire, ou encore le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire.